entre nous soit dit, Mélanie Croubalian.
Bonjour à tous. Si vous faites partie de la fonction publique à Genève, il y a une chance sur quatre que mon invité de ce jour soit votre patronne depuis 2013. Pendant ce court laps de temps, la LAS, sans trop de vagues, fait passer une loi sur l'école et introduit le mercredi matin pour tous les petits élèves du primaire genevois. Et puis, plus récemment, en novembre dernier, elle a dû affronter la colère de plusieurs milliers d'enseignants descendus dans les rues pour protester contre les mesures d'économie préconisées par le Conseil d'État. Voyage d'études annulé, rétention des notes, il faut bien le dire, c'était un peu chaotique. Avec calme et sérénité, certains diront avec sévérité et austérité, elle a tenu le gouvernail et dirige encore aujourd'hui le département difficile de l'instruction publique, de la culture et du sport. Bonjour Anne-Emery Torracinta.
Bonjour.
Vous êtes en direct en duplex de notre studio de Genève. Vous êtes élue depuis 2013 au Conseil d'État genevois, femme socialiste. Alors ces manifs de novembre, comment vous les avez vécues ?
Bah écoutez, à la fois en comprenant les raisons, parce que je crois que la plupart des enseignants que j'ai rencontrés dans les écoles, je vais régulièrement dans les écoles, étaient extrêmement inquiets par rapport à l'avenir de la formation. Et la plupart du temps, j'ai entendu et vu des personnes qui s'inquiétaient pour l'avenir de nos élèves, plus que pour, je dirais, leur salaire ou leurs conditions de travail. Donc dans ce sens-là, je peux comprendre ce mouvement. D'un autre côté, moi j'ai besoin... pour que l'école fonctionne, que les enseignants soient en classe avec les élèves. Et donc, à un moment donné, il fallait trouver une solution. Mais on était dans une situation politique difficile, je dirais, de manière générale. Hein. On n'a pas de budget à Genève, enfin, des mesures...
C'était pas
de...
que vous, hein. C'était
non,
pas
non,
juste
non,
votre département.
Non, 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 non. D'ailleurs, les gens le savent bien, et mes collègues du gouvernement le savent aussi, je défends régulièrement l'école genevoise, je demande des moyens pour l'école genevoise, on en a besoin parce que la population augmente, parce que la situation est aussi plus compliquée avec les familles, et souvent l'école doit pallier les manques des familles. Donc ça, c'est une réalité, ça nécessite des moyens.
Mmh. Et vous prenez d'ailleurs, vous avez fait engager des éducateurs pour pouvoir intégrer des enfants un peu différents dans les écoles, au lieu de les parquer ailleurs. Vous avez beaucoup...
Je ne dirais pas qu'on parque les enfants ailleurs dans l'école genevoise.
Dieu merci pas. Je schématise.
Dieu merci pas.
Ouais. Mais vous avez vraiment encouragé cette tendance à pouvoir intégrer tous les enfants à l'école.
Alors oui, disons que c'est l'école de mes rêves ou l'école idéale vers laquelle on doit tendre. C'est une école qui peut répondre aux besoins de chaque enfant, quelles que soient les difficultés ou les potentialités de cet enfant, quelle que soit son origine sociale, son origine culturelle, etc. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais développer. Maintenant, ça demande des moyens, donc on le fera petit à petit en fonction des moyens qu'on aura, bien évidemment.
Mmh. Alors c'est un département qui n'est pas forcément réputé facile, le DIP, avec culture et sport en plus. Qu'est-ce qu'il a précisément, Anne-Emery Torracinta, vous qui le pratiquez maintenant depuis 3 ans, presque, de difficile.
Alors d'abord, j'ai envie de dire que je le pratique depuis 38 ans, en réalité, puisque j'ai été enseignante pendant 35 ans. Donc c'est un département que je connaissais, pas dans son entier, mais en tout cas dans une partie. C'est un département qui est passionnant, c'est l'avenir. Je dirais que s'occuper de formation, s'occuper d'éducation spécialisée, s'occuper de culture et sport aussi, d'une certaine manière, c'est travailler sur la cohésion sociale, c'est travailler sur l'avenir de notre société, donc c'est passionnant. Maintenant, ce qu'il a probablement de difficile et de particulier, d'abord, j'ai envie de dire que c'est une énorme entreprise, si je peux employer ce mot. Je dis toujours que c'est la deuxième plus grande entreprise du canton de Genève après les hôpitaux, après les HUG, bien avant des grandes entreprises comme Rolex et Micro qui ont beaucoup moins d'employés. Donc c'est une immense machine, si j'ose dire, avec au fond une fonction publique, vous l'avez dit, qui est assez, je dirais, assez dynamique, mais aussi tout le monde dans la société a son avis sur l'école. Et c'est ça parfois qui rend les choses difficiles, c'est que chacun a passé par l'école, a un peu des comptes à régler avec l'école et a envie de s'exprimer. Et on voit que ce soit les parents ou d'autres personnes qui donnent leur avis, les députés qui veulent se mêler, par exemple, des programmes scolaires ou des choses comme ça. C'est assez particulier. Je ne crois pas qu'on ait ça forcément dans tous les départements de la même manière.
C'est juste, vous-même, vous la connaissez bien pour avoir été bien sûr élève, mais aussi prof. On y reviendra, Anne-Emery Torracinta. Vous avez plusieurs fois tenté l'élection au Conseil d'État. Vous avez finalement réussi en 2013. Vous avez été élue. Avant ça, vous aviez été devancée notamment par Pierre Maudet en 2012. Pas de regrets depuis 2013 ?
Aucun. Aucun. Je trouve que c'est passionnant. Alors, temps en temps, mes élèves me manquent. Mais enfin, comme je vais régulièrement dans les écoles, je recroise des élèves. Non, mais aucun regret, parce que je vous l'ai dit, c'est passionnant. Moi, j'avais fait 35 ans d'enseignement. Me retrouver peut-être de l'autre côté, et puis pouvoir essayer de faire avancer les choses, ou en tout cas d'empêcher qu'elles reculent, parce que j'ai un peu l'impression maintenant que beaucoup de gens remettent en question un certain nombre de choses au niveau de l'école, au niveau de ce qu'on essaye d'y faire. Non, je trouve que c'est passionnant, et j'ai bien l'intention de continuer encore de longues années.
Alors là, on parle beaucoup d'école, et c'est vrai que depuis votre entrée justement au Conseil d'État et au DIP, on parle beaucoup d'école, il s'agit beaucoup de changer les choses dans l'école. Il y a aussi culture et sport dans votre dicastère. On vous reproche d'ailleurs parfois de ne pas en faire assez, notamment pour la culture. Qu'est-ce que vous répondez à Némerie Thorasinta ?
Je dirais que c'est un peu plus subtil que ça. Je pense qu'on ne peut pas forcément toujours tout faire en même temps. Il y avait des urgences par rapport à l'école, liées aussi aux augmentations démographiques, etc. Et puis le Conseil d'État, par rapport à la culture et au sport, a souhaité d'abord travailler sur une clarification des rôles entre le canton et les communes, une meilleure répartition des tâches, ce qui a occupé beaucoup les services du département, les services aussi de la ville de Genève, qui est la principale concernée, notamment en matière culturelle. Et l'idée pour moi, c'était de dire, avant d'arriver avec... je dirais, une vision de ce qu'on veut faire au niveau cantonal en matière culturelle, il faut déjà qu'on sache qui doit faire quoi. Maintenant que les choses sont en train de se clarifier, en voie de l'aide ces prochains mois, j'ai bien l'intention de pouvoir avancer sur certains dossiers.
Parce qu'il y a certains dossiers assez lourds aussi, par exemple le musée d'histoire.
Alors le musée d'art et d'histoire, les musées devraient rester, à l'exception du musée d'art contemporain, devraient rester à la ville de Genève. Donc voilà, typiquement, c'est pas un dossier porté par le canton actuellement. Donc c'est toujours un peu difficile de s'engager sur un dossier si vous savez que vous n'allez pas le porter après. C'est pas très correct, je dirais aussi par rapport aux partenaires. On a des domaines, par exemple, comme le domaine du livre qui va être pris, le soutien que ça soit aux libraires, que ça soit aux auteurs, enfin, etc., ou autres. Tout ceci va être repris par le canton. Donc, c'est des politiques sur lesquelles on va pouvoir s'engager beaucoup plus. Enfin, en tout cas, je le souhaite.
En parlant d'école, d'ailleurs, il y a aussi l'école des Beaux-Arts de Genève qui était très réputée. Ça, c'est quoi ? Ça dépend de vous ou pas ?
Oui. Enfin, c'est la Haute École d'Art et Design,
exactement,
comme elle s'appelle maintenant, qui est une HES. Donc, comme c'est une HES, ce sont des établissements autonomes, mais qui sont, je dirais, sous la responsabilité du département d'instruction publique de la culture. Et du sport.
Et avec un MAMCO qui change de directeur en ce moment, donc
qui a
ça
changé.
Promet.
Oui, avec effectivement une très belle programmation qui est prévue.
Du boulot pour vous, Némerie Thorasinta.
Mais oui, mais je n'ai pas peur du travail.
En parlant de culture justement et de culture suisse et particulièrement genevoise, je ne sais pas si vous connaissez Jonas. Il chante.
Oui.
Vous le connaissez ?
Enfin, pas personnellement, mais de nom, oui.
Ça vous dit quelque chose, Petit Carré ?
Non, je crois pas. Enfin, peut-être, si je vais l'entendre.
Une chanson engagée, mais je pense que ça va vous plaire. On a choisi ça avec Nathalie Schauenberg en se disant que ça allait assez dans votre sens.
Entre nous soit dit, 14h, 15h, sur la première.
Selon l'angle, on te regarde, petit carré, ça ne tourne pas rond. Quant à tes racines, on t'associe toujours à la zone alpine. C'est marrant, j'ai jamais vu de cacaoyer, petit carré. Quelles sont tes origines ? Raconte-moi ton arrivée jusqu'ici. Serait-ce une cale de bateau qui te turlupine ? Une histoire cachée tout au fond des abîmes. L'Atlantique se souvient peut-être d'une époque où l'ébène s'obtient pour des indiennes. En fait, tissu helvétique de belles fabriques. Puis l'ébène se troque et compte la graine magique. Désolé si je croque dans les tabous, mais le monde est tabou depuis le temps qu'on les scroque. Par vanité, petit carré, tu es métisse, enfant d'un crime contre l'humanité. Petit carré, à l'arrière-goût, triangulaire qui remonte après coup. Une équation qui ne tourne pas rond. Petit carré, tu pourrais demander pardon. Petit carré, à l'arrière-goût, triangulaire qui remonte après coup. Une équation qui ne tourne pas rond. Petit carré, j'aurais pu m'en tenir au premier couplet. Quand le lait et le cacao s'accouplaient pour la première fois, mais l'histoire se répète. Autre contexte dans un autre endroit. Cette fois, on reste en Afrique de l'Ouest. La course au fric ne lâche pas plus de lest. On a varié les pratiques et quant aux lois, une éthique d'apparence, vu que l'humain a des droits. Au port, les entreprises amassent les graines. Y a un prix fixé et des intermédiaires. Alors ça débite les enchères et au début de la chaîne, vu à combien ça achète, on se débrouille à peine. Et ces enfants dont on fait trafic, fausses promesses aux parents des pays limitrophes. Les planteurs payent si peu qu'ils ne s'en tirent pas. Se payent un brin d'espoir dans ces paires de petits bras. Petit carré, à l'arrière-goût, triangulaire qui remonte après coup. Une équation qui ne tourne pas rond. Petit carré, tu pourrais demander pardon. Petit petit carré à l'arrière-goût, triangulaire qui remonte après coup, une équation qui ne tourne pas rond, petit carré, petit carré. Carré, remède à la déprime, dit-on. Y'a comme une fausse note cachée dans les demi-tons, dans les milliers de tonnes, derrière les milliards, des mômes privés d'avenir, petit carré corbillard. Ne venez pas me dire que l'on fait ce qu'on peut, mesdames, messieurs les pilleurs, pour qui l'humain compte peu. Des chiffres et des aides consomment, le but du jeu, que le compte soit bon, qu'on amasse des sommes. Je viens du pays où Nestlé, gens riches et polis, mais dont le cœur a caillé. Une démocratie qui barille, calbo au rôle, qui se dit neutre, c'est presque trop drôle, mais c'est pas le cas. Encore des efforts à faire, de trois étranges affaires à sortir du caca. Oh, au goût triangulaire, à l'arrière-goût amer, dont on n'a rien à carrer, petit carré. À l'arrière-goût, triangulaire qui remonte après coup. Une équation qui ne tourne pas rond, petit carré. Tu pourrais demander pardon, petit carré, à l'arrière-goût. Triangulaire qui remonte après coup. Une équation qui ne tourne pas rond, petit carré, petit carré.
Ça parle de chocolat, mais pas forcément avec la douceur qu'on attendrait de ce délicieux aliment. Ça vous a plu, Anne-Emery Doracinta ?
Oui, c'est un très beau texte. Et puis peut-être qui nous rappelle que la Suisse n'est pas une île, que notre richesse, elle s'est faite parfois aussi au détriment des autres. Oui, ça me parle beaucoup, oui.
Bravo Nathalie Schoenberg, notre programmatrice musicale qui a décelé ce morceau pour vous,
Anne-Emery
Doracinta. Anne-Emery Doracinta, vous êtes une femme, vous êtes politicienne, vous êtes socialiste, vous êtes genevoise. Je vous propose d'entendre une autre femme qui connaissait aussi très bien la politique. C'est en 1984.
Je crois qu'effectivement les femmes manquaient de confiance en elles au départ. Elles n'avaient aucune expérience. Et que ça a dû être très difficile pour elle de se faire une place et de se faire entendre. Et je crois qu'au départ, elles ont eu tendance à vouloir imiter les hommes en toute manière, ce qui était tout à fait normal. Elles n'avaient pas leurs propres références, elles manquaient de confiance en leurs propres valeurs, en leurs propres capacités. Elles ont tenté, essayé d'être un peu comme des hommes. Pas toutes, hein, pas toutes. Je crois qu'il y avait à l'époque, et il y a encore à l'heure actuelle, des femmes qui en politique ont absolument la même attitude qu'un homme. Mais dans l'ensemble, les premières élues et les observateurs politiques de l'époque ailleurs reconnaissent que les femmes ont tenté d'être un peu comme des hommes.
Vous l'avez reconnue, Anne-Emery Doracinta ?
Oui, bien évidemment, puisque c'est ma mère.
Claire,
exactement.
Alors, elle a écrit un livre à ce moment-là, en 1984, sur les femmes en politique, justement. Elle était au micro de Marie-Claude de Burgh. Ça fait sourire, après coup, de l'entendre. Qu'est-ce qui a changé, selon vous ?
Disons que son livre s'appelait, si je me rappelle bien, « Le pouvoir est pour demain », donc en fait pour aujourd'hui, maintenant. Et on est encore malheureusement loin du compte. C'est ça que j'ai envie de dire. Et c'est vrai qu'il y a eu une arrivée des femmes, en tout cas en Suisse, dans la vie politique. Et puis on a l'impression maintenant presque d'une, je ne vais pas dire d'une forme de régression, mais en partie oui. Je suis la seule femme au Conseil d'État. Le Parlement genevois, je ne sais pas à quel pourcentage on est maintenant, mais on est maximum à un tiers de femmes, je crois. Pour moi, c'est un tout petit peu inquiétant quand même.
Qu'est-ce qui est dur aujourd'hui quand on est une femme et qu'on fait de la politique ?
Je pense qu'on vous demande plus encore qu'à un homme. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'indulgence pour les hommes lorsqu'ils ne sont pas bons. Alors que pour les femmes, elles doivent
être
toujours...
Mais il n'y en a pas de pas bons.
Écoutez, c'est comme partout. Il y a aussi des femmes qui sont sans doute moins bonnes. Mais une femme en politique, on va tout de suite lui reprocher. À la limite, mais même ce que vous avez dit au début de votre émission, si on prend des décisions, on est sévère. Vous avez parlé d'austérité. On devient autoritaire. Ou etc.
C'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. C'est vrai que ce sont des mots qui circulent.
Oui, non, mais c'est ce qu'on dit très souvent sur les femmes. Si elles prennent des décisions, alors elles sont autoritaires. Et si elles ne les prennent pas, elles sont faibles et incapables. Et ça, c'est quand même des choses qu'on entend. On ne va jamais reprocher à un homme d'avoir pris une décision, par exemple.
Qu'est-ce qu'elle vous a appris, votre mère, Claire ?
Bah, sans doute beaucoup de choses. Quelque part, je suis probablement un peu le reflet de mes deux parents, d'ailleurs. Enfin, on est toujours un petit peu le reflet de ses parents. Je crois qu'elle m'a beaucoup, dans mon enfance, ce que j'en retiens, enfin, je pourrais retenir beaucoup de choses, mais c'est le fait qu'elle m'a toujours encouragée à suivre ma voie, à faire des études. Elle-même avait arrêté l'école avant la fin de sa scolarité, avait pas fait peut-être les études qu'elle aurait souhaité faire. Donc, elle a toujours souhaité que j'aie un métier, au fond. C'est ça, que je puisse faire, que je puisse m'épanouir dans une profession. Elle m'a toujours encouragée aussi dans la voie politique, enfin, dans la voie que j'avais envie de choisir, moi, en réalité.
Mmh. Et c'était la voie politique depuis votre enfance?
Indirectement. C'est-à-dire que j'ai toujours été passionnée par la chose publique, par la politique, par l'engagement. Depuis que je suis petite, je ne pourrais pas vivre quelque part sans m'engager. Comment dirais-je, quand j'étais enfant, je disais j'avais envie de changer le monde. Alors, en grandissant, on nuance les choses et on a envie de changer les choses ou de changer le monde à son échelle. Mais l'idée qu'on est quelque part responsable, qu'on ne peut pas laisser faire un certain nombre d'injustices, par exemple, dans le monde sans agir. Donc, ça peut passer par différentes formes, ça peut passer par l'associatif, mais la politique est un moyen, effectivement. Mais quelque part, l'enseignement n'en est pas très loin. L'enseignement, c'est aussi faire comprendre le monde à des élèves, par exemple. Donc, on est bien dans cette démarche-là. Voilà, exactement.
À quel moment vous êtes rendu compte, Anne-Emery Torracinta, que l'injustice existait?
Sans doute très vite, enfant. Un souvenir que j'ai, enfin, je dis toujours que j'étais très marquée par un certain nombre d'événements qui sont passés en 1968. J'avais pas tout à fait 10 ans. Et un événement que je garderai en mémoire, c'est une guerre qui avait lieu en Afrique, dans une région du Nigeria qui s'appelait le Biafra. Le Biafra avait fait sécession. Et dans le cadre de cette guerre, il y a eu la première grande famine médiatisée par la télévision à l'époque, parce que la télévision était encore à ses débuts. Et c'était les premières images d'enfants avec des gros ventres, d'enfants affamés. Et je me rappelle avoir voulu donner de l'argent que j'avais reçu à mon anniversaire pour les enfants du Biafra. Donc oui, ce sentiment d'injustice, et c'est pour ça que je fais le lien avec la chanson tout à l'heure de Jonas, ce sentiment d'injustice et ce sentiment que quelque part, on est aussi responsable de ce qui se passe à des milliers de kilomètres de chez soi. Je l'ai eu très vite, et en tout cas, ces images, où j'avais même pas 10 ans, m'ont beaucoup frappée, et m'ont amené à m'engager. Les premiers engagements à l'adolescence ont été d'ailleurs pour des associations en faveur des pays du Sud.
Vous avez l'habitude, Anne-Emery Torracinta, et votre nom l'indique, qu'on vous parle plutôt de votre père, Claude, qui est effectivement plus connu que Claire, votre mère, dont on a plus parlé. C'est celui qui a notamment créé Temps Présent à la télévision suisse romande à l'époque, c'est comme ça que ça s'appelait. Qu'est-ce qu'il vous a appris, lui?
Alors, l'autre partie de moi-même, certainement, c'est aussi lié à lui. Aussi une forme d'engagement dans sa profession. Hein. Je dirais que journaliste, enseignant, je ne veux pas dire que c'est la même chose, mais on est dans cette même idée de communication. D'ailleurs, pendant longtemps, j'avais envisagé de faire du journalisme, mais je ne voulais pas être la fille d'eux, donc j'ai renoncé pour ça. Voilà. Mais il m'a appris aussi une rigueur. On a les mêmes passions. Il aime beaucoup l'histoire. Moi, j'ai enseigné l'histoire, donc une certaine rigueur intellectuelle, une forme d'engagement aussi, oui, certainement.
Le socialisme, à quel moment il est arrivé dans votre vie? Est-ce que quand vous étiez petit enfant, vous aviez déjà conscience que ça pouvait exister?
Oui, tout à fait.
On en parlait?
En ayant un père journaliste d'abord et journaliste politique, moi j'ai vécu toute mon enfance avec les informations à la radio, que ce soit à midi ou le soir. On écoutait la radio, on s'intéressait à ce qui se passait dans le monde ou autour de nous. Donc le politique a toujours été au cœur des discussions familiales, que ce soit par le biais du métier de mon père ou plus tard avec les engagements politiques de ma mère, par exemple.
Et les amis de la famille, notamment Ruth Dreyfus, qui était une amie de la famille.
Oui, c'est vrai, c'était une connaissance et amie d'adolescence de mon père, en fait.
Donc vous la voyez passer à la maison quand vous étiez petite?
Non, plus tard, beaucoup plus tard, quand elle était plus. Parce qu'elle habitait à Berne après. Hein. Nous, on a été à Paris un certain temps, elle était à Berne, donc je dirais que c'est après son passage, quand elle a été conseillère fédérale, qu'elle est revenue à Genève, effectivement.
Vous, Anne-Emery Torracinta, quand vous étiez petite, on vous a vu là avec tout ce concept d'injustice, le journalisme, l'enseignement que vous avez finalement choisi avant de vous tourner vers la politique. À quoi vous rêviez quand vous étiez petite?
Vous entendez au niveau professionnel ce que je voulais faire?
Ou d'autres niveaux, si vous avez d'autres choses à dire?
C'est difficile à dire. Je ne me voyais pas forcément enseignante ou journaliste quand j'étais toute petite. À un moment donné, je me voyais médecin. J'ai souvent pensé que je ferais des études de médecine et puis j'ai assez vite bifurqué. D'abord, je n'étais pas très bonne dans les branches scientifiques, in fine. Et puis après, très vite, c'était plutôt l'idée de changer le monde, changer les choses, agir, enfin, etc.
Et ça continue jusqu'à aujourd'hui.
Oui.
On va
même si on est plus modeste aujourd'hui, évidemment.
Ça commence par des petites gouttes qui font la mer.
Exactement.
Anne-Marie Torracinta. On va justement écouter une musique qui va nous emmener direction ces pays du Sud vers lesquels vous vous êtes engagée très tôt, très précocement dans votre vie. C'est Ismaël Lô. C'est vous qui nous avez proposé cette musique. Tadjabone. Je ne sais pas si je le dis juste. Hein.
Je crois, oui.
Ça, c'est beau, hein. Ismaël Lô, il est sénégalais. Tadjabone. Dominique Stalder, qui est en gym, disait qu'il faudrait que je revoie peut-être un peu mon accent. Effectivement. Je ne sais pas si vous arrivez à le dire mieux que moi, Anne-Marie Torracinta.
Je ne suis pas sûre, c'est du Wolof. Donc, voilà, on n'est pas les.
Ni vous ni moi ne maîtrisons tout à fait le Wolof.
Non, puis d'ailleurs, je crois que les paroles sont même pratiquement incompréhensibles, hein, si on essaie de les traduire d'après ce que j'essaie de. En me renseignant. Donc,
d'accord.
C'est surtout la beauté, je crois, de la musique, hein, qu'il faut prendre dans cette chanson.
On va revenir à des choses beaucoup plus triviales maintenant. Ce sont des informations concernant le trafic ferroviaire.
Infotrafic RTS.
Suite à un dérangement technique, la gare de Sierre n'est que partiellement ouverte. Il faut s'attendre à d'importants retards et à des suppressions de trains. Retour à vous, Anne-Emery Torracinta. Vous êtes socialiste, genevoise, femme politique, au Conseil d'État genevois depuis 2013, responsable du DIP, département de l'instruction publique, culture et sport également. Nous sommes en train de parler de vous. Vous avez laissé avec votre rêve d'enfant d'être médecin et puis il s'est avéré autre chose, c'est-à-dire prof d'abord, prof d'histoire.
Je ne dis pas que c'était un rêve, c'était à un moment donné, je m'imaginais médecin et puis après j'ai bifurqué. Hein.
Une projection et puis il se passe parfois autre chose. En l'occurrence, tant mieux, puisque vous êtes devenue cette politicienne que je disais, entre-temps aussi prof d'histoire pendant de nombreuses années. On va quand même rester encore quelques années dans votre enfance avec ça.
Vivre au jour le jour, ça ne veut peut-être pas dire tellement grand-chose actuellement, mais effectivement, on a par exemple actuellement une action, enfin un emploi du temps assez bien déterminé, disons pour un laps de temps qui reste jusqu'en septembre. À partir de septembre, étant donné qu'il va falloir mettre en place tout de même un fonctionnement des structures de facultés pour que l'année universitaire recommence, en fonction du travail qui a été élaboré dans les commissions et des décisions qui seront prises au niveau de toutes les disciplines et au niveau de toutes les facultés. Ce travail donc doit être fait dans les 3 mois qui suivent. Bon, alors il y a d'autres problèmes, des problèmes aussi de fond finalement, qui eux ne pourront dans le fond trouver de solution qu'au cours des 1 ou 2 années ou 3 années à venir et qui pourront même être remis en question par ceux qui nous suivront derrière. C'est des problèmes qui dépassent presque le problème purement réformiste ou révolutionnaire, comme vous voudrez, l'organisation des facultés.
Et oui, c'était la grande révolte, c'était à Paris, à la Sorbonne, c'est la voix de Florence, une anonyme interviewée par André Nucelet, le 30 mai 1968 précisément, à Paris. Et vous y étiez, vous ?
Oui, puisque à l'époque, mon père était correspondant de la Tribune de Genève, entre 66 et 69. On habitait en plus en plein quartier latin. Et je parlais tout à l'heure de l'année 68 avec mes prises de conscience. Il y a eu les pays du Sud, l'Afrique, la misère du monde. Mais il y a eu aussi la prise de conscience politique. Très concrètement, pour la petite fille que j'étais, l'école a été fermée pendant plus de 3 semaines pour essayer de briser le mouvement de grève. Le gouvernement avait décidé de fermer les écoles. Et avec une petite copine qui habitait le même immeuble, on se baladait dans les rues de Paris et on essayait d'interroger les gens en leur demandant s'ils étaient pour De Gaulle ou pour les journalistes, pour les étudiants. C'est une époque où j'ai même écrit des poèmes à la gloire des étudiants avec des rimes relativement simples.
Vous vous en souvenez?
Non, peut-être pour réformer l'université, il faut lancer les pavés, enfin quelque chose comme ça. Mais voilà, pour moi, ça m'a beaucoup marqué. Et puis de cette idée qu'il fallait agir pour changer les choses. Oui, donc c'était une année importante pour moi, l'année 68.
C'était déjà du journalisme, au fond, que vous faisiez avec votre copine dans la rue.
Oui, mais tout à fait. C'est juste, c'est exactement ça.
C'était quoi, le modèle aussi de votre père ?
Probablement, oui. Cette idée, effectivement, de comprendre ce qui se passait, de témoigner. Et oui, puis on parlait que de ça. Enfin, j'entends, imaginez, entre le courant du mois de mai et les premiers jours de juin, une école qui est fermée, enfin, les enfants qui doivent rester à la maison, c'était quand même assez particulier.
De quelle manière ça, vous avez l'impression, Anne-Emery Torracinta, que ça vous a façonné, ce passage à Paris, et en plus, en 68, pour votre tâche d'aujourd'hui ?
Ça a venu me façonner aussi parce que j'étais à l'âge où il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'enfance. Quand on est tout petit, on a peu de souvenirs. Après, c'est l'adolescence. C'est vraiment ce passage de l'enfance dans les 8-10 ans quoi, qui est vraiment un moment qui est important. Oui, donc ça m'a vraiment probablement appris à réfléchir sur le monde, à essayer de comprendre ce qui se passait, à se dire qu'il fallait être actif je me rappelle aussi d'avoir le frère de cet ami qui était lui déjà au lycée, donc déjà dans le secondaire, et qui nous disait faire partie des comités d'action lycéens. Alors bon, je pense qu'il avait 11 ou 12 ans, donc vous voyez ce qu'il devait faire, mais on était très jalouses. On se disait, lui, il a le droit de faire quelque chose, il a le droit d'agir, et puis nous, on était là à se dire, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire?
Il était dans l'action et vous essayiez d'y être avec vos petits reportages.
Voilà, exactement. Vous voyez, à 9 ans et demi... Ouais.
Qu'est-ce qu'ils vous en racontaient, vos parents, votre père notamment ?
Mais c'est même pas raconté, on le voyait tous les jours. J'entends, moi, je me rappelle des nuits à Paris avec les bruits des gaz lacrymogènes, enfin les bruits des grenades qui étaient lancées, les barricades, enfin les arbres arrachés, les arbres avaient été arrachés au boulevard Saint-Michel, les pavés avaient été retournés, etc. Donc quand on faisait des courses, on pouvait pas, on avait l'impression que Paris était un peu en insurrection. Donc c'était même pas nous raconter, c'est ce qu'on voyait, ce qu'on vivait au quotidien, les gens qui discutaient dans la rue, enfin etc. Voilà. Mmh.
Hormis ces trois semaines de fermeture d'école à Némery-Torracinta, vous avez été à l'école à Paris. Vous avez d'ailleurs reçu le deuxième prix d'honneur de l'école publique à Paris. Vous étiez donc une bonne élève à Paris également.
Je ne sais pas où vous avez trouvé ça, mais...
C'est vrai, non ?
Alors, c'est-à-dire que l'école à l'époque était une école très traditionnelle. Hein. C'est après que ça a changé, après 68. Et c'est vrai que pour encourager les élèves à travailler, on leur distribuait des tableaux d'honneur. C'est-à-dire, j'imagine, je ne me rappelle plus les détails, mais que quand on avait eu des bonnes notes, on était une bonne élève, on recevait un tableau d'honneur, donc c'était même pas, c'est comme un bon point, on distribuait d'ailleurs aussi des bons points, c'était une manière de dire bravo, voilà, l'élève X ou l'élève Y a fait des bons résultats, il faut que tout le monde fasse pareil.
Mmh. Pourquoi ne pas faire ça à Genève aujourd'hui? Vous croyez que c'est efficace?
Peut-être pas, non, pas de cette manière-là. Alors, on est passé à l'époque d'une éducation, je dirais, très, très autoritaire, où l'enfant n'avait pas de place, en définitive, où, je me rappelais des cours de dessin, on copiait des vases à fleurs, il n'y avait pas de créativité, rien du tout, à une école ensuite très, très libérale, parfois très laxiste, parfois trop laxiste. Je pense qu'on est en train de revenir à un modèle qui redonne des repères. Et moi, je pense qu'on a besoin aujourd'hui, à l'école comme d'ailleurs ailleurs dans la société, qu'on a besoin de cadres, qu'on a besoin de repères. Et que mai 68 a à la fois amené une liberté qui était formidable, mais a amené aussi beaucoup d'individualisme et beaucoup d'excès. Je pense qu'on est revenu à quelque chose qui est, enfin, on essaie de revenir à quelque chose qui serait, pour autant que ça existe, un plus juste milieu.
Avec des bons points et des tableaux d'honneur?
Non, je ne pense pas que ce soit forcément ça, mais encourager le travail, récompenser le travail des élèves, quel que soit le résultat. Parce que peut-être l'erreur à l'époque, c'est que c'était la note qui jouait. Donc, au fond, vous étiez, par chance, aussi peut-être avec le milieu, un élève qui réussissait au niveau des notes, puis vous aviez des bons points, alors qu'il y a des élèves qui travaillaient sans doute plus et qui n'accédaient pas à ces notes-là. Donc c'est pas le résultat qui doit en tant que tel être valorisé, c'est plutôt l'accompagnement de l'élève, le travail que fait l'élève, quel que soit le niveau où il est, le fait de faire un effort doit être récompensé.
En même temps, je sais que ça se fait hein, dans le canton de Vaud, d'envoyer par exemple une lettre de la direction pour féliciter tel ou tel élève qui a de bonnes moyennes.
Mais est-ce que ça doit être que les notes ? Moi, c'est la question que je pose.
Le débat est ouvert.
Oui. Je pense, par contre, de féliciter l'élève qui travaille bien, dans le sens qui se donne de la peine, qui essaye d'arriver, qui essaye de progresser. C'est d'ailleurs ce que font les enseignants au quotidien.
Vous êtes rentrée en Suisse en 1969 avec vos parents, parce que c'était la fin de cette période de correspondance pour votre père. Le retour en Suisse, comment il s'est passé ?
Alors, c'est le passage assez presque, je dirais, brutal dans l'adolescence ou la préadolescence. Je suis rentrée pour arriver au cycle d'orientation. Ça a été un changement.
Vous aviez 11 ans.
J'avais de l'avance à cause du système français, puisqu'à moins le système français est plus rapide à l'école primaire. Je venais d'une école de filles du 5e arrondissement de Paris, donc avec des petites filles bien sages, j'allais dire. Et je me suis retrouvée dans des classes du cycle d'orientation beaucoup plus chahuteuses. Je garde pas un très bon souvenir de ces premières années. J'ai beaucoup mieux aimé après mes années de collège, j'allais dire à partir de 14-15 ans.
Vous avez ensuite entamé des études d'histoire à Genève?
Histoire et sciences politiques, les deux choses en parallèle la première année. Et après, j'ai bifurqué sur l'histoire. Et après 2 ans d'uni, j'ai commencé à enseigner parallèlement à mes études.
Ce qu'on fait souvent d'ailleurs quand on étudie, en tout cas à Genève, en faisant des remplacements.
Remplacements, puis après des classes comme suppléantes, enfin, c'est-à-dire à l'année. Quoi.
Qu'est-ce que ça vous a appris, ces études-là, et pourquoi vous les avez choisies d'abord?
Alors, j'ai toujours aimé l'histoire depuis que je suis petite. Comme je vous l'ai dit, j'avais envisagé d'être journaliste, donc c'était aussi sciences politiques. Les deux choses étaient proches, j'ai fait les deux choses en même temps. La première année, après, ça devenait quand même un peu compliqué de tout mener. Donc, j'ai continué avec l'histoire. Pour moi, étudier l'histoire, c'est pas étudier le passé pour étudier le passé, c'est le comprendre, c'est-à-dire comprendre d'où on vient pour savoir où on va quelque part, au fond, l'être humain s'inscrit dans la durée, et pour comprendre le monde dans lequel on est, on a besoin d'avoir un peu de recul, et l'histoire nous permet ça. Et au fond, les historiens sont souvent... ils s'intéressent au passé, mais ils s'intéressent au passé parce qu'ils ont envie de faire quelque chose par rapport à l'avenir, au fond, pour mieux agir au niveau de l'avenir.
Ce qui est tout à fait typique dans votre cas, hein. Vous l'avez dit plusieurs fois depuis le début de cette émission, changer le monde, changer l'avenir, même à petite échelle. Qu'est-ce que ça vous a appris, ces années de métier de prof, finalement, pour ce que vous faites aujourd'hui, Anne-Emery Thorat-Sainta?
D'abord que, j'ai envie de dire, si je peux employer ce terme, j'ai adoré ce métier. Je trouve que le contact avec les adolescents est extraordinaire. Vous avez l'impression de pas trop vieillir. Je trouve que c'est passionnant de communiquer ce qu'on a envie de faire, ce qu'on aime faire. Je pense que les élèves nous apportent beaucoup. Alors, je dirais que de manière générale, j'ai beaucoup aimé. Quand j'ai quitté mes élèves, d'ailleurs, j'avais la larme à l'œil. Ils l'ont vu. Et je m'y attendais pas du tout. Hein. Bon, j'étais élue. Je pensais, voilà, je vais leur dire, je m'en vais, etc. Et j'ai eu beaucoup d'émotions, beaucoup de difficultés à les quitter. Alors, maintenant, qu'est-ce que ça m'a amené? En tout cas, dans le département où je suis, très clairement, de probablement connaître un certain nombre de réalités de ce département, on l'a dit, qui est grand. Donc, de bien savoir ce qui peut se passer en classe.
De connaître de l'intérieur, disons.
Voilà, exactement. Mmh. Mais en même temps, je me rends compte aussi aujourd'hui de l'importance qu'il y a de garder ce lien avec le terrain. On est très vite dans une tour d'ivoire quand on est dans un gouvernement, parce qu'on est pris par... mille et une contingences, mille et une obligations,
séances, etc.
Et donc, j'ai besoin de garder ce lien. Alors, ce que je fais, dans la mesure de mon temps disponible, je consacre en fait tous mes mardis matins à des visites, soit de services du département, soit d'établissements scolaires. Le plus souvent, ce sont des établissements scolaires avec des rencontres avec les enseignants, avec les élèves, avec le personnel administratif. Ça me donne un petit lien avec le terrain, un petit indicateur aussi de ce qui peut se passer.
Vous recroisez d'anciens élèves à vous ?
Oui, bien sûr. J'en recroise. J'en ai même qui travaillent pour mon département, d'ailleurs. Enfin, je ne parle pas comme prof, mais j'en ai dans des services du département.
Qui ont grandi et qui sont entrés dans le monde du travail.
Exactement. Et qui sont
et qui vous disent quoi sur ce que vous leur avez appris, apporté ?
Alors, je crois que souvent, j'ai l'impression qu'ils retiennent de moi que j'étais quelqu'un de passionné par les sujets qu'on enseignait. Je suis toujours très heureuse quand certains me disent « Vous nous avez fait aimer l'histoire. »
Ça arrive, des bons profs d'histoire. Anne-Emery,
c'est ce côté passionné, c'est-à-dire que quelle que soit la discipline qu'on enseigne, quand on est passionné, qu'on a envie de transmettre cette passion, les élèves le sentent.
Vous avez aussi, vous êtes entrée en politique, hein, entrée au Parti Socialiste Genevois, c'était en 1984, d'ailleurs l'année où votre mère a publié son livre sur les femmes en politique. Est-ce un hasard ?
Pas forcément, c'est-à-dire que j'avais l'impression d'y être presque depuis des années par ma mère interposée, et puis j'ai fait le pas à ce moment-là. Oui, ça correspond avec mon mari. D'ailleurs, on est rentrés les deux en même temps, et puis très vite j'ai été active, et puis après avec la force de, enfin, je dirais le fait d'avoir eu trois enfants, dont une enfant handicapée, a fait que j'avais moins de temps, donc j'ai mis la politique un peu entre parenthèses, et je l'ai retrouvée une fois que ma fille était sortie du cocon.
Pourquoi finalement si tard, 84, vous étiez déjà adulte, vous avez dit que c'était avec votre mari, donc pourquoi pas plus jeune, dans les jeunesses socialistes par exemple?
J'ai passé par les jeunesses socialistes.
Tout. Vous voyez, il manque des informations quand même.
Oui, voilà. Non, j'ai passé par les jeunesses socialistes. Je m'étais inscrite à l'année où je suis rentrée à l'université, donc en 76. J'ai fait, je crois, une année, et après, je n'étais pas forcément d'accord avec l'orientation qui était prise par certains, donc je préférais arrêter. Et puis, je suis revenue après, au fond, assez naturellement, dans ma commune, qui était à l'époque la commune de Confignon.
Qu'est-ce qui a changé dans ce parti socialiste au fil des années ?
Je ne crois pas qu'il ait fondamentalement changé. Ça reste un parti, un parti de gauche, donc avec toutes les valeurs de la gauche en matière de justice sociale et autres. Et puis c'est un parti, c'est aussi pour ça que le Parti Socialiste m'intéressait. C'était un parti qui était ouvert aussi sur les questions sociétales. On a parlé d'égalité hommes-femmes tout à l'heure, des femmes en politique. C'était un parti qui était un peu à l'avant-garde à l'époque aussi sur ces questions-là. Et pour moi, c'était aussi important. Je ne crois pas que ça a fondamentalement changé.
Pourtant, certains disent qu'il est quand même, qu'il vire quand même un petit peu vers la droite. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Écoutez, je crois pas, dans un parti comme le Parti Socialiste, et je pense d'ailleurs c'est le cas de la plupart des partis probablement en Suisse, il y a des ailes plus ou moins à gauche, plus ou moins à droite, il y a des positions qu'on a, c'est clair que quand on est dans un parlement par exemple, les parlementaires sont souvent plus à gauche que, ou perçus comme plus à gauche que quand vous êtes au gouvernement, donc on a des positionnements qui peuvent être différents selon la place qu'on a, si on est élu ou pas élu. Je crois pas que ce soit un parti qui vient. Maintenant, la société a changé, il faut
peut-être
savoir s'adapter.
Peut-être tous les partis dérivent lentement vers la droite.
Je ne crois pas que les partis dérivent vers la droite. Je ne crois pas que le Parti Socialiste dérive vers la droite. Je pense que si vous interrogez mes collègues du gouvernement, je ne pense pas qu'ils auraient une vision du Parti Socialiste aujourd'hui à Genève, en tout cas au Parlement, comme étant un parti qui a viré à droite. Certainement pas.
Et vous le savez, puisque vous êtes socialiste à Némerie Thorasinta et que vous travaillez au Conseil d'État genevois. J'aimerais écouter une très très belle voix maintenant. Cadet Lang, c'est une chanson de Leonard Cohen, texte et composition. Une chanson qu'on adore. Sortez vos mouchoirs. Hein. Alléluia.
Entre nous soit dit, Mélanie Crobalian.
That David played and it pleased the Lord. You don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight. Overthrew you. Well, she tied you to her kitchen chair. She broke your throne and cut your hair. And from your lips she drew hallelujah. 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 I've walked the floor, used to live alone before I knew you. But I've seen your flag on the marble arch. Our love is not a victory march, it's a cold and it's a broken. Hallelujah. 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 Hallelujah, hallelujah. Maybe there's a God above, but all I've ever how to shoot somebody who outdrew you. It's not a cry that you hear at night. It's not someone who's seen the light. It's a cold and broken. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Erika Delang, c'est elle qui chante, lui, je ne sais pas.
Elle,
oui, pardon.
C'est d'ailleurs une femme qui a beaucoup, enfin qui œuvre, qui est homosexuelle et qui défend la cause homosexuelle et qui a beaucoup de courage aussi par rapport à ça.
Mmh. Bon, nous avons une boîte de mouchoirs estampillés, entre nous soit dit, je ne sais pas si vous en avez une de votre côté à Genève dans notre studio. En tout cas, on peut se dire qu'en écoutant cette chanson, on aurait pu l'utiliser. Texte et chansons et musique de Leonard Cohen. On la connaît aussi par Jeff Buckley. Enfin, bref.
C'est aussi une très belle version, celle de Jeff Buckley. Mmh.
Pourquoi vous avez choisi ça?
C'est une chanson que j'aime bien. J'aime bien la voix de Kelly Lang. Et puis c'est vrai que cette femme aussi m'a beaucoup émue dans son combat en faveur de l'homosexualité. Aussi elle est canadienne, dans son combat aussi en faveur des minorités indiennes. Donc voilà. Et puis la chanson est belle en elle-même, enfin il n'y a pas forcément besoin de justifier au fond pourquoi une chanson est belle.
Absolument pas, et surtout pas dans ce cas, dans le cas de Hallelujah. Combat pour les minorités, c'est aussi un peu votre truc finalement, Anne-Emery Torracinta. Combat pour plus de justice, pour intégrer les élèves différents dans les écoles.
Oui, et puis vous savez peut-être, enfin je l'ai dit tout à l'heure, mais donc j'ai 3 enfants et ma fille aînée est en situation de handicap mental, donc ça a été aussi... Un combat pendant des années, parallèlement à mon métier d'enseignante, enfin de défendre cette cause-là, que je continue de défendre à la tête de mon département en disant, eh bien, l'école doit être pour tous les enfants.
Vous lisez dans mes pensées Anne-Emery Torracinta, parce que c'est là que je voulais en venir maintenant, écoutez.
C'est probablement, je dis probablement, parce qu'il y a tellement d'enfants différents, quoi, qui ont des symptômes autistiques, mais qui sont très très différents. Il y a par exemple ce qu'on appelle l'embrouillage sensoriel. Par exemple, ça peut être un enfant qui est, quand il écoute, ne sait pas en même temps enregistrer les informations visuelles. Ou inversement, s'il est en train de regarder quelque chose et que vous lui parlez, il ne sait pas faire les deux à la fois. Donc il n'entend pas, quoi, ce que vous lui dites. Ou bien ça peut être aussi un enfant qui entend mais par bribes et qui n'arrive pas à mettre les mots ensemble pour faire une phrase compréhensible pour lui. En plus, souvent dans l'autisme, il y a un problème avec le développement du langage qui fait que le langage ne se développe pas comme chez les autres enfants. Tous les enfants apprennent à parler sans problème, quoi. Pas les autistes, je veux dire, ou pas la plupart d'entre eux. Donc forcément, il y a un trouble de la communication. Qui vient aussi, il est de deux côtés, on va dire, quoi. On dit c'est lui qui a un trouble de la communication, bon d'accord, mais il est de deux côtés aussi dans le sens où nous on ne le comprend pas parce qu'il a des tas de gestes bizarres ou il fait des choses qui n'ont pas de sens pour nous, secouer la tête, sortir des sons étranges qui pour nous n'ont aucun sens, et pour lui forcément ça en a, quoi.
Ça se passe en 1998. Véronique Servet qui s'exprime là, spécialiste des autistes notamment. Je ne sais pas si vous la connaissez d'ailleurs, Anne-Emery Torracinta.
Je ne crois pas, non.
C'était un reportage, dans le cadre d'un reportage dans l'émission La Smala, défunte émission d'ailleurs, autour de Jonathan, un jeune autiste. Si je vous fais écouter ça, c'est justement parce que vous venez d'en parler. Votre fille, l'une de vos filles, est autiste.
Enfin, ma fille, autrement j'ai 2 fils.
Oui, voilà, l'un de vos enfants en tout cas. Vous avez une fille Delphine qui est autiste. Racontez-nous ça, Anne-Emery Torracinta, parce que ça a forgé beaucoup de vos engagements et notamment la fondation de l'association INSIEME que vous présidez depuis 2000.
Enfin, je l'ai présidée, elle avait été créée en 1958, elle a mon âge en fait, cette association.
Association de parents et amis de personnes handicapées mentalement.
Eh bien, Delphine est notre enfant aîné et puis on a découvert petit à petit qu'il y avait quelque chose qui n'était pas tout à fait comme chez les autres enfants. C'est-à-dire que quand elle avait entre 2 et 3 ans, au moment où le bébé a basculé dans la petite enfance, il va apprendre à parler, il devient propre, etc., elle ne changeait pas. Et on s'est rendu compte petit à petit qu'il y avait un problème. Mais je dirais à une époque où on était encore à Genève, et heureusement ça a changé maintenant, mais à une époque où on était encore dans l'idée de dire, mais puisque... Et ça a bien été expliqué dans le reportage. C'est un enfant qui ne comprend pas le monde dans lequel il est, donc communique mal, etc., donc a des problèmes de relation avec les autres. On avait tendance à dire que c'était la faute des parents. C'était l'époque héritée de Bettelheim. On disait que l'autiste, en fait, se protégeait peut-être de la société ou de sa famille. Et heureusement, les choses ont changé. On sait maintenant que les causes... n'ont rien à voir avec les parents. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, on a découvert le chromosome qui est chez notre fille à l'origine de son problème. Mmh.
Ce qui est intéressant aussi dans cette archive, et c'est pour ça que j'ai choisi précisément cet extrait-là, c'est de dire que nous, de l'autre côté, on ne comprend pas non plus l'enfant à cause des signes qui accompagnent l'échange.
C'est-à-dire d'abord, il y a beaucoup de formes d'autisme, hein, parce que probablement que, enfin, l'autisme est un symptôme comme la fièvre. Vous avez de la fièvre peut-être parce que vous avez une maladie qui peut être plus ou moins grave, etc. Et l'autisme, c'est un peu la même chose, c'est un ensemble de symptômes. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, l'enfant ne comprend pas très bien ce qui se passe, donc ne s'exprime pas de manière, je dirais, normale, que ce soit avec ou sans langage. Donc ça provoque des difficultés. Il peut y avoir des réactions de l'enfant qui peuvent être très bizarres, effectivement.
Et difficile à comprendre pour nous. Donc c'est peut-être nous, finalement, qui avons un problème à les comprendre.
Non, je ne crois pas. C'est que simplement, l'enfant n'a pas les codes pour comprendre. Elle le dit bien à un moment donné dans l'émission. C'est comme si on est dans un brouillard ou dans une situation où vous entendez... Il y a plein de sons différents, puis vous ne comprenez pas. Ou bien imaginez, vous êtes dans un pays, vous ne parlez pas la langue, vous ne comprenez pas un mot. Il n'y a rien à quoi vous raccrocher. C'est probablement un petit peu de ça qui se passe dans la tête des autistes. Ils n'ont pas les moyens de décoder le monde dans lequel ils sont si on n'arrive pas à leur trouver ces moyens-là. Et pendant très longtemps, les prises en charge dans les institutions et ailleurs n'étaient pas du tout adaptées, puisqu'on faisait des psychothérapies, par exemple, alors que ce n'est pas du tout la solution. Non, ce sont des personnes aussi souvent qui sont très angoissées par les changements. Ça, c'est une des caractéristiques. Et donc, ils leur font un environnement, je dirais, le plus stable et le plus sécurisant possible.
Qu'est-ce qui s'est passé en vous quand vous avez découvert justement l'autisme de votre fille, Anne-Emerie Thorat-Saintin?
Alors, on l'a découvert, en fait, je dirais, petit à petit. C'est pas quelque chose qu'on découvre du jour au lendemain. Hein. Notamment parce qu'à l'époque, on n'avait pas aussi les moyens, en termes d'analyse génétique, de savoir ce que c'était, d'où ça venait, etc. Je dirais que le choc, on l'a eu quand une personne nous a dit, on s'inquiétait parce qu'elle ne parlait pas. Elle avait 3 ans, elle ne parlait pas. Et puis, de fil en aiguille, quelqu'un l'a regardée, l'a examinée. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui va se passer, par exemple, pour l'école? On essayait de comprendre. Et la réponse avait été terrible à l'époque. Ça avait été de dire, mais pour des enfants comme elle, il y a des institutions. Et donc, du coup, on avait compris que c'était un gros problème et que ce n'était pas simplement un petit retard. Et puis, de fil en aiguille, Delphine s'est quand même bien développée. Elle a été intégrée à l'école. C'est une jeune femme, enfin, elle va avoir 34 ans, qui est heureuse maintenant, malgré son autisme et malgré ses difficultés. Mais je dirais qu'elle est globalement heureuse, qui vit dans une belle institution à Genève qui s'appelle Aigues-Vertes.
Je crois qu'elle a même fait de la politique.
Oui, elle a fait de la politique à son niveau. C'est assez drôle parce que dans le village d'Aigues-Vertes, il y a des élections régulièrement au Conseil des villageois. Et c'est juste, elle a été élue au Conseil des villageois. Et un jour, elle avait été interrogée par un journal qui était venu faire un reportage sur Aigues-Vertes. Elle m'a dit, de toute façon, tout le monde fait de la politique chez moi, ma mère aussi.
Ça, c'est dans la famille. Hein. On ne peut pas y couper quand on est dans votre famille.
Voilà, exactement. Mais c'était assez rigolo. Mmh. Et d'ailleurs, elle siégeait dans une commission Aigues-Vertes qui s'appelait la commission sport, culture et loisirs. Donc, vous voyez que ce n'est pas très loin de sa
maman. Vraiment. On n'en sort pas, hein, Anne-Emerie Thorat-Saintin. Qu'est-ce qui se passe justement aujourd'hui, et ce sera ma dernière question, avec les autistes à l'école à Genève?
Alors certains, mais c'est probablement la minorité, en tout cas ceux qui arrivent à suivre le programme, on essaie de les intégrer. La difficulté, c'est que souvent ce sont des élèves qui ont des problèmes de comportement. Ce que je souhaite développer, et on va dans cette voie à Genève, on arrivera malgré les difficultés budgétaires à avoir quelques moyens supplémentaires à la rentrée prochaine. Je souhaiterais que ces enfants, depuis tout petits, soient au maximum dans le cadre scolaire ordinaire. Mais pour ça, il faut aussi, dès qu'on décèle un problème, qu'il soit pris en charge. On a développé à Genève maintenant des prises en charge préscolaires pour ces enfants. Et l'idée, c'est de les intégrer parce que pour beaucoup d'entre eux, on arrivera à les mettre dans un circuit, je dirais, relativement ordinaire. Et toute la société a tout à y gagner puisqu'au fond, l'institution n'est pas forcément une solution sur le long terme, même si certains en ont besoin, même si ma fille sera toujours en institution, elle ne peut pas vivre seule, par exemple. Mmh.
Merci beaucoup Anne-Emerie Thorat-Saintin d'avoir été avec nous en direct de Genève. Je vous emmène de nouveau au sud, cette fois-ci du côté du Brésil. Rio, ce sera dans des tours tout à l'heure avec Martine Galland et tout de suite une chanson de Séverin, ça vient de sortir. Merci Anne-Emerie Thorat-Saintin.
Merci à vous, au revoir.
Porque você não compreende, porque você não entende. Mais de 5 anos nós falamos em tradução, chegou ao fim.
Les mots que tu formes, ma chérie, ne sont pour moi qu'une mélodie. Et je voyage à domicile à t'écouter parler à tes copines. Edredom, facile.
E eu de saco cheio do seu jeito de me falar em portunhol.
Un oignon, non, c'est pas ça. Oui, je n'ai rien compris, encore une fois. J'avais promis, j'ai rien appris. Mais je sais dire merci beaucoup. Et je vis bien, même sans sous-titres, à t'écouter et engueuler la voisine.
Petite leçon de portugais brésilien avec Séverin, ça vient de sortir. Il est accompagné de Kiwi Dagama qui lui donne ses leçons de brésilien. Merci à Nathalie Schoenberg qui a programmé cette chanson et les autres. Merci à Dominique Stalder et Anne Marchand qui étaient en régie respectivement à Lausanne et à Genève. Après les informations, comme je vous l'ai dit, Martine Galland vous emmène dans des tours direction Rio. Nous, on se retrouve demain avec Antoine Jacou. Il écrit, il a un regard très tendre mais aussi grinçant sur la Suisse, vous entendrez. Il est 15h sur la première.